Que faire si ton frère a commis un péché contre toi ? Cette question, toujours actuelle, Jésus y répond par les paroles qu'on vient d'entendre et bien sûr aussi par l'exemple de toute sa vie. Mais le temps est compté, je me limite donc à partir de l'évangile de ce dimanche à trois réflexions sur nos responsabilités de chrétiens et de frères et sœurs les uns pour les autres. Et une première chose que l'on peut retenir à partir de l'évangile, c'est que le Christ nous confie à chacun, à nous tous aussi ensemble bien sûr, un ministère important, le ministère du pardon et de la réconciliation. Quand on dit pardon et réconciliation, on pense d'abord au sacrement de pénitence, à un ministère réservé aux prêtres. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que le pardon et la réconciliation relèvent de la responsabilité d'abord des premiers concernés lorsqu'il y a un conflit et aussi de la responsabilité des frères et des sœurs de la communauté. Ça peut prendre du temps et ça nécessite un engagement graduel suivant la résistance de celui qui a commis un péché contre son frère ou sa sœur. On commence par une rencontre personnelle avec celui qui nous a fait du tort. Si ton frère a commis un péché contre toi, nous dit le Seigneur, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si ça ne suffit pas, on fait appel à d'autres personnes qui peuvent intervenir. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. Dans de telles situations, on se demandera sans doute « Qui suis-je ?» pour intervenir dans les affaires de mon prochain. Justement, je suis un frère ou une sœur qui ne peut pas être indifférent, surtout quand on lui demande son aide. Et quand c'est le bien commun qui est gravement menacé, Dieu nous demande parfois d'être, pour reprendre une expression qu'on a entendue dans la première lecture chez le prophète Ézéchiel, pour être des guetteurs, pour avertir ceux qui font le mal. On pense alors à la troisième possibilité évoquée par le Christ. Si ça ne suffit pas, on fait appel à l'ensemble de la communauté et à ses responsables, parce que c'est la communauté elle-même qui est menacée quand celui qui a commis une faute grave refuse de la reconnaître. Dans l'Église des premiers siècles, les évêques et les prêtres exerçaient le ministère sacramentel du pardon, principalement pour les fautes graves qui menaçaient directement la vie de la communauté chrétienne. Mais pour le reste, on donnait beaucoup d'importance au ministère de pardon et de réconciliation de tous les baptisés. À leur savoir-faire pour faciliter le pardon et la réconciliation par l'écoute et la capacité d'aborder franchement les conflits au lieu de pratiquer le déni ou, comme on dit, de jeter l'éponge. On peut rêver un peu si tous les baptisés exerçaient vraiment leur ministère de réconciliation. La faible fréquentation du sacrement de la réconciliation serait moins inquiétante. Le prêtre ou l'évêque n'interviendrait qu'en dernier recours en cas de faute grave pour, je reprends les termes de l'Évangile, lier et délier, autrement dit pour parfois exclure ou réadmettre quelqu'un dans la communauté ou pour lui imposer des obligations ou l'en libérer. Je n'en dis pas plus sur cette question qui est un peu complexe. Et je passe à la deuxième réflexion pour pardonner, pour être des artisans de pardon et de réconciliation, il y a un préalable, il faut être et se reconnaître pardonné. Nous le savons, quand on est soi-même pardonné et réconcilié, c'est plus facile de pardonner et de se réconcilier avec quelqu'un d'autre. Et on rejoint la belle affirmation de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. » Et ce ministère, Il passe par la prière. Jésus, aujourd'hui, nous le fait comprendre quand il dit ensuite « Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » C'est la prière d'intercession. Nous prions pour le frère qui a commis une faute. Nous prions avec lui parce que nous sommes solidaires avec lui dans notre fragilité par rapport au péché. Et le prêtre aussi, qui entend notre confession, reste toujours un frère qui prie avec nous, qui demande aussi pour lui le pardon et la miséricorde de Dieu. Et c'est aussi la prière qui s'élargit dans toutes ses dimensions, demande et action de grâce pour soi-même et pour ses frères et sœurs, prière d'adoration qui nous ouvre à l'amour du Père. Être chrétien, c'est se laisser habiter en profondeur par l'amour du Père qui nous unifie, qui nous réconcilie, qui nous pardonne, qui nous réunit dans une seule famille malgré les différences. Et cet amour que Jésus nous manifeste en plénitude, nous voulons l'accueillir chaque fois que nous disons, au début de la messe, « Seigneur, prends pitié ». Pas pour nous enfermer dans un sentiment de culpabilité, mais pour nous ressourcer à l'amour de Dieu qui nous réconcilie, pour y trouver la force nécessaire d'être à notre tour, à la suite de Jésus, artisans de pardon et de réconciliation, et nous le faisons ensemble, quand chacun dit, nous l'avons dit tout à l'heure, et vous aussi, frères et sœurs, je vous supplie de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Quand on accueille la présence de Dieu, quand on laisse Dieu intervenir, demeurer dans son histoire personnelle, c'est alors bien plus facile de pardonner et d'être des artisans de réconciliation. Et je passe à la troisième réflexion. Être artisan de réconciliation, parfois être guetteur et intervenir auprès d'un frère, d'une sœur, c'est ne poser que les exigences de l'amour. Si on revient aux paroles de Jésus, quand les premières démarches de réconciliation ont échoué, considère-le comme un païen et un publicain. Apparemment, c'est une parole dure, mais pas si dure quand on sait l'attitude de Jésus à l'égard des pécheurs et des publicains et des païens. Il ne les exclut pas du royaume, au contraire, il leur annonce l'amour du Père, il les invite à la table du royaume, son invitation est irrévocable et son pardon ne s'épuise pas. C'est pour cela que le nôtre ne devrait jamais s'épuiser. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois, jusqu'à 77 fois, répond Jésus à Pierre, peu après, autrement dit, toujours. Et pourtant, l'amour a ses exigences, et il n'y a pas d'autres exigences que celles de l'amour. C'est bien de nous le rappeler quand nous sommes tentés d'un côté par le déni des conflits, puis de l'autre par des exigences sans l'amour. Pour illustrer cela et pour finir, je vous rapporte une petite histoire que certains d'entre vous connaissent certainement déjà, où le soleil peut représenter l'amour de Dieu et le vent, les exigences de l'amour. Le vent et le soleil regardent un voyageur qui avance dans la montagne, emmitouflé dans un épais manteau, et il se lance un défi. À qui obtiendra que le voyageur enlève son manteau le plus rapidement? Et c'est le vent qui commence, il souffle de plus en plus fort, le voyageur se recroqueville dans son manteau pour donner moins de prise au vent, et il finit par trouver un creux dans le rocher, si bien que le vent a beau souffler de plus en plus fort, il finit par renoncer. Et vient le tour du soleil, il réchauffe la terre de ses rayons, peu à peu, sans violence, et voilà que le voyageur ôte son manteau. Le soleil a gagné son pari. Prions Dieu qu'il vienne réchauffer nos cœurs et de son amour, que nous sachions à notre tour, à la suite de Jésus, diffuser un peu de cette chaleur que nous recevons pour être davantage des artisans les uns pour les autres de pardon et de réconciliation.